Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Chairman pour vous servir. Les Guesnes m'appellent le Chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelle représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? God is the greatest man. Oh, oh, ah. PDG, let's get it!
We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby.
De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une championne, une CPE, une femme qui nous fait du bien, une femme qui s'implique. J'ai nommé Lise Viéville. Comment tu vas, Lise?
Bah, très bien, je te remercie pour ton invitation.
Mille merci, honnêtement. On a bataillé pour t'avoir.
Mais je suis là.
C'est ce qu'on
retient. Grâce à toi.
Merci infiniment, Lise. Comme je le disais déjà, merci pour tout ce que tu fais parce que tu es une femme de l'ombre. Tu es une femme qui agit dans l'ombre, qui fait beaucoup pour les gens et pour toutes ces choses-là déjà, au nom de toute l'équipe de We Hustle, je tenais à te le dire déjà et à te remercier.
Ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci à vous.
Est-ce que tu peux te présenter, Lise, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, je m'appelle Lise Viéville, comme tu l'as dit. Je suis CPE depuis 23 ans. Donc, j'ai été nommée en premier poste à Romainville, dans un collège, collège Pierre-André Houël, pendant 17 ans. Et là, je suis à Toulon, dans un collège également, depuis 2017.
Très bien. D'où tu viens ?
Alors, moi, je suis Lorraine. Je suis née à Metz. J'ai fait mes études à Metz. J'ai passé mon concours CPE à Metz et j'ai été nommée avec mes 21 points dans le 93.
Mm-hmm. On va, avant de parler de cette étape importante de ta vie, on va un petit peu rester en Lorraine. Donc, c'était quoi l'ambiance à la maison? Toi, vous êtes issu d'une grande famille ou pas du tout?
Alors, on a la carte de famille nombreuse, on était trois, donc c'est un petit nombre, mais je suis l'aînée d'une fratrie de trois. J'ai un frère qui s'appelle Jérôme et une petite sœur qui s'appelle Clémence.
D'accord, très bien. Et tu sais, moi-même, j'ai travaillé en tant qu'assistant d'éducation pendant mes jeunes années et j'avais l'occasion de discuter énormément avec les CPE. Ils me parlaient de leurs difficultés, mais si tu veux, le point culminant et ce qui revenait à chaque fois, c'est que c'était une vocation pour eux. C'était ton cas de figure, toi?
Alors, moi, j'ai jamais été surveillante. Par contre, j'ai découvert le métier, comme tu disais, quand j'ai fait des études de droit et on avait la possibilité de faire des heures d'aide aux devoirs. Mmh. Donc, je me suis inscrite pour aller faire de l'aide aux devoirs dans un quartier un peu chaud de Metz qui s'appelle Borny. Et j'ai fait de l'aide aux devoirs pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai découvert la CPE. J'ai pas du tout aimé ce qu'elle faisait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais passer le concours et je ferai pas comme elle.
OK. Pourquoi elle était trop stricte?
Je pense qu'il y avait un vieux fond de racisme. Elle avait rien à faire là, en fait. Donc, ça m'a dérangée alors que je voyais tout le potentiel de ce qu'on pouvait faire dans un établissement. Différent, enfin.
Bien sûr. Mmh. Et du coup, t'es arrivé dans le 93 directement. T'étais jeune, t'étais forcément plus jeune. T'avais quel âge précisément?
Alors, c'était mon premier poste, je l'ai pris le jour où il y a eu les attentats. C'était quoi, le 11 septembre? Je sais pas en quelle année c'était.
2001?
Ouais, des tours.
D'accord.
C'était ma première année. Mmh. Donc, une entrée.
Ouais, c'est clair.
Ça a commencé avec Vigipirate, ça s'est jamais arrêté, du coup. Mmh. Voilà.
Il y avait quand même de l'appréhension, quitter ton environnement natal.
Bien sûr. Avec tout ce
que tu entendais.
Oh là là, j'en ai entendu des horreurs. Et tout le monde dans la promo, en fait, se paxait pour éviter, ou faisait des enfants carrément, pour éviter d'être nommé dans la banlieue parisienne, tellement la réputation a été Enfin, on racontait que même les pompiers rentraient pas. Enfin, c'était infâme ce qu'on pouvait raconter.
Ça allait jusque là ?
Oui, oui, ce qu'on pouvait dire à l'époque, ouais, ouais.
D'accord. Donc toi, quand t'es arrivé, je suppose que t'es arrivé par la petite porte sur la pointe des pieds. Tu t'es imprégné de ton environnement. T'as voulu connaître les codes. Comment ça se passait ? Moi, je veux que tu nous parles de toute cette étape-là, s'il te plaît.
Alors, c'est je pense que c'est toujours difficile, je dirais, la première année où les enfants ne te connaissent pas, tu ne connais pas l'environnement, mais une fois que tu t'imprègnes d'eux, que tu t'intéresses, t'es adoubé. Je dirais que tu mets une petite année à être adoubé, et plus les années s'ancrent, plus tu tisses des liens avec les familles, t'es reconnu par les familles, t'es reconnu après par les grands frères, les grandes sœurs. Tu tisses ton réseau comme dans tout milieu, et jusqu'à ce que tu aies une reconnaissance qui vienne d'elle-même et une autorité du coup qui n'est jamais contestée. Donc t'as plus de soucis d'autorité. Moi j'en ai jamais trop eu, mais j'en ai quasiment pas eu tout au long de ma carrière. J'ai jamais déposé plainte contre un élève. Je me suis jamais fait insulter. Enfin j'ai toujours eu cette reconnaissance, mais qui est due, je pense. À sa façon à s'adapter et pas projeter une vision de ce qu'on aimerait que les enfants soient. Ça n'existe pas, ça.
Et encore une fois, je fais le flashback et je me rappelle de mes années en tant qu'assistant d'éducation, mais quand je parlais également avec des profs, ils me disaient qu'il manquait cruellement de moyens, qu'ils n'étaient pas assistés même par la direction, parfois même par le ministère. Toi, est-ce que c'est des paramètres que tu as... Enfin, est-ce que déjà, tu es d'accord avec ces dires ?
Alors, il faut savoir quand même que quand on est en REP, Réseau d'éducation prioritaire, on a des moyens supplémentaires. Donc, c'est pas Byzance non plus, mais on arrive toujours à se débrouiller. Quand on veut, on arrive toujours à trouver de la thune. Là, on est sur des projets. Moi, je suis avec une prof qui est fourmi de projets pour les enfants. Elle arrive toujours à grappiller. Il faut chercher, quoi. Mais quand on veut, on y arrive. Il faut monter des projets, il faut défendre son biftec. Mais c'est vrai qu'après, tout ce qui est heures supplémentaires ou projets dans lesquels on peut s'investir, on n'est pas payé. Mais je vais me faire détester par tout le monde. Mais je crois que moi, ce n'est pas ce qui me motive, en fait. Ce n'est pas l'argent. Sinon, j'aurais choisi une autre branche. Après, ce qui peut être triste, c'est tout ce qu'on pourrait mettre en place s'il y avait de l'argent. Par exemple, les petits déjeuners le matin, l'accueil des enfants, puisqu'on se rend compte qu'ils n'ont qu'un seul repas par jour. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place pour justement aider les enfants et mettre de l'argent à ce niveau-là de l'aide aux enfants.
Mm-hmm. Et justement, pour ces subventions-là, pour celles et ceux qui essaieraient de taper à la porte de certaines institutions. Toi, tu as des pistes ?
Alors, moi, je n'ai pas de pistes. Moi, je me repose toujours sur des gens qui ont des pistes.
Ok.
Je m'associe toujours avec les bonnes personnes.
D'accord.
Donc, moi, je suis le mouvement, mais ce n'est pas moi qui vais taper.
Toi qui initie.
Non. Le passeport culture, enfin, toutes ces choses-là, moi, j'y comprends fifre. Mais je suis toujours avec des gens qui sont très débrouillards là-dessus et qui font le nécessaire pour réussir à financer. À financer leur projet.
D'accord. Lise, tu sais, quand je regarde un peu la chose de l'extérieur, on nous parle toujours d'épiphénomène, on nous parle d'abaya. Mmh. Et est-ce que tu partages mon avis quand je te dis que ces choses-là sont volontairement mises sur la table pour faire oublier les problèmes de fond ?
Je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
Là, l'expérience qui a été épuisante, c'est le constat qu'on se faisait avec les surveillants, parce que j'ai une super équipe cette année. C'est qu'on a eu trois épiphénomènes, comme tu l'as dit. On a commencé le début de l'année, c'était les abayas. Il y en avait de partout.
Exact.
Tu venais avec ta robe Zara, la gamine, elle était en abaya. Il fallait chasser, tu sais par quoi ? Les punaises de lit. Du moment où il n'y a plus les abayas, il y avait des punaises de lit de partout. C'était l'enfer, quoi. La punaise de lit, on avait vu des punaises de lit. On allait voir au microscope la punaise de lit. Complètement éclipsé par l'attentat dans la banlieue.
Exact.
Voilà. Il n'y a plus de punaises de lit à partir de ce moment-là. On dirait toujours qu'il y a un phénomène qui enfin l'arbre qui cache la forêt.
Exactement.
Donc c'est épuisant par contre.
Et c'est quoi le ressenti de l'intérieur, vous ? Comment vous voyez ça ? Parce qu'on n'entend pas tout le temps les profs, je ne sais pas s'ils ont une voix assez importante, assez imposante pour se faire entendre, mais finalement, on n'a pas cette voix-là.
La voix des enseignants ?
La voix des enseignants.
Alors après,
ou des encadrants même.
Je crois qu'on n'a pas forcément le même point de vue en vie scolaire que d'une salle des profs. Après, moi, j'ai la chance d'être dans un établissement scolaire où les enseignants sont plutôt bien. Donc, la parole de certains n'est pas forcément écoutée sur des sujets comme la baïa ou les punaises. Il y a une discussion et c'est remis en perspective. Je souffre pas trop de ça. Il y a une discussion possible, même si de leur point de vue, une salle des profs, ça restera toujours une salle des profs. Mmh. Et une vie scolaire, qui est un service qui est très exposé... le fonctionnement d'une vie scolaire, on n'a pas le même aperçu. Nous, on a l'aperçu de l'élève à l'extérieur et dans sa globalité, ce qui n'est pas forcément le point de vue de l'enseignant qui, lui, est là pour transmettre une matière. Et nous, c'est plutôt l'éducation.
Tout à l'heure, tu as soulevé un bon point quand tu disais que tu ne le faisais pas pour l'argent. Mmh. Toi, tu avais vraiment envie de partager avec les gens. Partager avec les élèves, et c'est une très bonne chose. Et tu sais, moi, à mon époque, excuse-moi, je vais reparler une énième fois de ça, mais on avait des professeurs qui restaient plus longtemps pour faire l'aide aux devoirs avec les élèves. Ils n'étaient pas rémunérés.
Ah ouais ?
Ils n'étaient pas rémunérés.
Ça, j'ai pas connu, moi.
Ils n'étaient pas rémunérés. Et finalement, ça permettait aux gens qui avaient un peu plus de difficultés de rattraper le wagon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? C'est toujours d'actu ?
Alors, il y a énormément d'heures qui sont données, payées en heures supplémentaires, qui sont données aux enseignants pour faire de l'aide aux devoirs le soir, une fois qu'on ferme l'établissement scolaire, enfin qu'on ferme ou que l'élève a fini, il peut s'inscrire à l'aide aux devoirs et venir faire ses devoirs avec un enseignant ou un assistant d'éducation. Mmh. Donc là, je reviens aussi sur la REP, il y a quand même des moyens qui sont alloués à ce type d'établissement. Il y a aussi du SOS matière. Quand le gamin, il a fini de manger à 13h, il ne comprend rien à Pythagore. Il y a un prof de maths qui passe dans la cour et qui récupère le gamin et qui va lui expliquer pendant 45 minutes ce qu'est Pythagore. Donc, il y a quand même des trucs positifs. Okay. Quoi.
Bien sûr. Merci. J'ignorais ça.
Si. Il y a pas mal de moyens sur les heures sup allouées à l'aide aux devoirs faits. On appelle ça devoir fait maintenant, et SOS matière. Et maintenant, il y a là des classes également. Donc, tu as trois formules pour justement raccrocher le plus possible les élèves avec des formules différentes pour les élèves volontaires ou pas.
Et l'écart est toujours aussi conséquent entre le public et le privé ?
Alors, le privé, moi, j'y suis... J'ai aucun aperçu de ce qui peut y être fait. Moi, le seul constat que j'ai pu voir de gamins qu'on a pu récupérer du privé, que c'était dans le 93 ou dans le 83, je trouve qu'ils sont un peu abîmés, les gamins qui sont passés par le privé.
Ah
alors
bon ?
Pourquoi ? Ouais.
À quel niveau ?
Bah, je pense que la pression, elle est bien plus importante que celle que nous, on peut exercer au quotidien. Après, je sais pas, hein, c'est mon intuition à moi et... mon expérience, mais je ne m'appuie pas sur des études.
D'accord. Précises. Non, c'est ton ressenti.
C'est mon ressenti, ouais.
Tu sais, parfois, on tape aussi très souvent sur les jeunes. À juste titre, mais pas tout le temps. Parce qu'on dit que les jeunes ne s'intéressent à rien.
C'est faux. Enfin, moi, c'était mieux avant. Avant, c'était comme ci. Avant, c'était comme ça. Enfin, c'est une petite chanson qui. Mais comme la violence qui augmente, c'est insupportable. C'est pas vrai. Moi, ça fait 23 ans que je bosse. Je les trouve pas plus désintéressés que ça ne l'était il y a 23 ans. Seule chose, peut-être, ils sont peut-être moins endurants quand il s'agit de faire quelque chose. Mais ça, c'est peut-être dû aux écrans, j'en sais rien. Mais je crois qu'on peut pas accabler non plus que les écrans. Et je pense qu'ils s'intéressent. Enfin, non, moi, je vois pas de différence. Je trouve pas que c'était mieux avant. Je ne trouve pas qu'il y ait plus de violence. Je ne trouve pas que c'est plus intéressant avant, non.
Parce qu'on nous parle justement des phénomènes, à savoir les rixes, les rythmes, même dans les cours de récréation. On nous dit que les jeunes se désintéressent tout simplement de l'école. Tu vois, c'est ce qu'on nous jette en pâture pour justifier certaines choses, pour justifier des chutes de résultats, pour toutes ces choses-là.
Moi, je crois pas. Je crois que la plupart aiment l'école. Enfin, il suffit de venir un vendredi veille de vacances pour voir que certains, ça va être compliqué les deux semaines de vacances. Ceux qui restent, qui ont du mal à partir. Alors pas tous, hein. C'est pas la majorité. Après, c'est ceux que moi je vois.
Bien
aussi.
Sûr.
Moi, je vois certainement une partie de l'iceberg que d'autres ne voient pas. Mais je pense que l'école, c'est pour beaucoup la planche salvatrice. Enfin, on est un repère, on a un cadre, ils ont à manger, on leur apprend des choses, on les console, on les écoute, on les soigne quand ils sont tombés dans la cour, on les écoute pour savoir pourquoi ils se sont bagarrés, parce qu'ils se battent pas pour le plaisir de se battre, mais on essaye de démêler et d'avoir un temps pour eux et être un lieu d'expression.
T'es une personne dévouée, hein, et non, ça nous fait du bien. Non, ça nous fait du bien, Lise. Merci beaucoup, sincèrement. Et de Romainville à Toulon, du coup.
Dis-moi.
C'est quoi les points communs?
Alors, les points communs, il y en a. Alors, je dirais que c'est quand même des établissements qui sont cosmopolites, et ça, je pense que c'est bien, parce que ces deux établissements-là, il y a de tout, en fait. Mm-hmm. Les catégories socio-professionnelles, elles sont mélangées et je pense que c'est salvateur. Un gamin qui vient de la cité, il est mélangé avec un fils de prof ou donc ça, ces établissements-là ont toujours ces deux établissements-là ont ce côté-là intéressant. Il n'y a pas de ghettoisation ni dans un sens ni dans un autre. Ils sont tous dans le même établissement et mixés. Et mixer ensemble. Donc, ça apprend aux uns aux autres à se connaître, à se côtoyer. Et je pense que c'est important, ce melting pot. Moi, je vois mes enfants, je les ai toujours mis dans les écoles de secteur. Et ils ont cette richesse-là de connaître la différence dans un sens ou dans un autre.
Et pourquoi avoir décidé de partir à Toulon?
Pourquoi avoir décidé? Parce que je voulais, mon rêve depuis toute petite, c'était vivre au bord de la mer. Tout simplement.
Mm-hmm. C'est un très bon projet, en tout cas, Lise. Et à ton échelle, où se situeraient les axes d'amélioration dans les établissements?
Je pense qu'il faudrait encore plus que ça ne l'ait fait prendre des élèves qui sont dans leur diversité. Parce qu'une classe... c'est composé de tas d'individus totalement différents. T'as du champ du handicap.
Exact.
Moi, là, dans mon établissement, il y a une ULIS, une unité locale d'insertion scolaire. Et tous les élèves sont mélangés, c'est très bien, mais est-ce qu'on arrive à prendre celui qui carbure et qu'au bout de 10 minutes, il a tout compris du cours et celui qui n'a rien compris, qui a écrit deux lignes? Donc, on demande aux enseignants de compenser ça et de faire une pédagogie différentielle. Mais l'élève qui est avec 25 élèves, je ne pense pas que ce soit possible. Il faudrait qu'il y ait des SAS où ils puissent être pris et retravailler un peu comme dans les systèmes du nord de l'Europe où ils sont pris sur certaines heures. Un peu ce qu'ils font dans les classes relais où on revient pour certains, on ferait du sur-mesure, où on revient... sur les basiques, t'arrives en troisième, tu as Pythagore, tu connais pas tes tables, ou je te dis n'importe quoi, et il faudrait pouvoir retravailler à la demande sur ce que l'enfant ne comprend pas. Ce que l'éducation nationale essaye de faire, hein, avec justement les ULIS, avec les classes FLS, ils prennent les élèves dans la diversité, mais c'est du prêt-à-porter, c'est pas de la haute couture, il faudrait faire du sur-mesure. Mais c'est impossible.
Qu'aurais-tu à dire à l'éducation nationale?
Venir voir sur le terrain comment ça se passe. Sortir un peu, parce que certaines circulaires, certaines lois qu'on lit, c'est sorti de gens qui sont dans des bureaux et qui ne savent pas ce que c'est un élève. Hein. Mais bon, ça, je pense que c'était un vœu pieux.
Ouais. Non, mais... En tout cas, moi, je partage totalement ton avis et merci encore une fois pour cette transparence.
C'est un peu des banalités, mais...
Non, mais... tu es du terrain. Donc, c'est très factuel ce que tu dis. Et tu parles de ce que tu connais. Donc, ce n'est pas dénué de sens. Et il ne faut pas prendre des pincettes. Donc, Lise, moi, je... Tu as bien raison. Je vais m'attarder un petit peu sur Romainville une énième fois. Tu sais, il y a quelque temps, on a reçu Dadju.
Oui.
Que je salue fraternellement. Et il nous a parlé de toi avec des paroles élogieuses. Clairement, il nous a dit que tu lui avais sauvé la vie presque. Parce qu'il était à la rue, parce que lui et sa famille étaient livrés à eux-mêmes. Moi, je veux que tu nous parles de cette époque-là. Déjà, quel genre d'élève il était ?
Alors, c'était un bon élève. Il n'arrête pas de répéter qu'il était un cancre, mais moi, il était bon élève. Il avait même choisi allemand pour être dans une bonne classe. Donc... Et puis, il y avait sa mère, Madame Nsungula, elle rigolait pas, quoi. Mm-hmm. Donc, pour moi, il a toujours carburé à l'école. Après, c'est le gars qui... Tu sais, t'as toujours, dans les classes, celui qui accompagne ceux qui sont exclus.
Ouais.
Donc, et tu sais que tu peux lui faire confiance parce qu'il va te le ramener à bon port, qu'il va pas y avoir de problème. Et il arrive, il te raconte, mais j'ai toujours dit qu'il avait l'œil qui frise. Lui, il avait ce rôle-là. Après toute cette époque de la mise à la rue, moi, j'ai pas les mêmes souvenirs. Mais bon, après, j'ai tellement d'histoires en tête dans ma vie de CPE que je me rappelle plus des détails. Moi, je me rappelle de Madame Nsungula, qui était vraiment... Je me rappelle même de la tenue le jour où...
Ah ouais.
Ouais, je me rappelle de ça. Je me rappelle de les avoir amenés dans un foyer, toute la famille avec les affaires, dans des sacs poubelles. Il y avait le petit Darcy qui était tout petit à l'époque. Il avait 4 ans, 4-5 ans. Et les avoir abandonnés, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, les avoir... Je ne sais plus qui avait fait le 119, hein, je ne me rappelle pas. Je me rappelle que je les avais récupérés, que je les ai emmenés, il devait être 11h30, un samedi ou un vendredi soir dans la Twingo. On a mis tous les sacs dans le coffre. Et de les avoir abandonnés, c'était à Croix-de-Chavaux, à Montreuil, dans un foyer. C'est un souvenir, là, probant, dont je me souviens. Après, je me rappelle, oui, de la pétition que j'avais faite. Je me rappelle du monsieur à qui je l'avais envoyé par fax, le nom Monsieur Chaudière, je me rappelle de son nom. Et après, toute la collecte auprès des profs, je ne sais plus, j'avais fait un petit panneau en salle des profs et les gens donnaient des coquillettes. J'ai une copine qui avait donné son réchaud de camping. Donc, c'est ce souvenir-là que j'ai en tête. Je me rappelle d'avoir aussi un mardi après-midi, mais j'étais toute seule avec madame. Et on est allé au droit au logement. C'est au début, c'était ma première idée. Je les avais amenés au DAL. C'était dans le quartier du Marais. Et j'avais le petit dans mes bras dans le métro qui était tout petit. Ça, je me souviens. Je me rappelle pas où était Dadju à ce moment-là. Il devait être grand. Il devait être ado. Il devait être avec ses copains. Mais je me rappelle de madame et je me rappelle de.
Tu minimises peut-être tes actions, mais franchement, tu les as sauvés.
J'ai
honnêtement, il parle de toi avec tellement d'amour et de respect. Franchement, et c'est beau même tout ce que tu dis. Mais tu sais, dans cette corporation, c'est toujours difficile le dépassement de fonction. Parce que tu peux te faire taper sur les doigts. Parce que si ta direction avait appris ça, t'aurais pu te faire virer.
Je sais pas. J'ai jamais réalisé ni pensé comme ça. Je crois qu'on m'a laissé faire.
C'est sûr, d'accord.
Et puis
le dépassement de fonction n'est pas tout le temps bien vu.
Non. Non, mais je crois que si tu le fais dans la bienveillance et dans la certitude que ce que tu fais est juste, je sais pas s'il peut t'arriver grand chose. Parce que c'était pas, enfin, je les ai pas pris chez moi. Là où j'aurais pu être, où on m'aurait reproché des choses, c'est si tu prends la famille et tu les installes chez toi.
C'est vrai.
C'est ça où on peut te reprocher. Mais si tu connais après ta manière de fonctionner, la façon de fonctionner, c'est plus simple. Et puis à cette époque-là, je sais pas, j'avais les connivences avec le type de la mairie. De mes souvenirs, hein. Après, je te dis des histoires Là, l'histoire se finit bien pour Dadju, et tant mieux. C'est pour ça aussi que je suis ici et que c'est un message que je veux faire passer. Quand on veut, on s'en sort. Quand on a l'agnac, on s'en sort. Quand on a la foi, on s'en sort.
Bien sûr.
Et je veux que ce soit des paroles qui soient entendues par les enfants. Qu'il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme social.
C'est beau ce que tu dis, Lise. Hein. Merci sincèrement. Non, c'est beau. Merci, merci sincèrement. Et toi, qu'est-ce qui guide ton altruisme, là? C'est guidé par quoi? Par une spiritualité? C'est non. Guidé par... Ouais. Tu sais, j'ai parlé avec des gens même de Romainville. Mm. Et ils m'ont dit de toi que tu étais la meilleure CPE de tous les temps.
Oh, c'est beau.
Tu vois? Wow. Donc, il y a un moment donné, il n'y a pas de hasard, fille. À chaque fois, les gens qui croisent ton chemin parlent de toi avec beaucoup de classe, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Il y a peut-être quelque chose derrière. Pourquoi toi, tu as envie d'aider tout le monde comme ça? Là où tu aurais pu te contenter uniquement à rester CPE et faire ce que ta direction t'autorise à faire, par exemple.
Je pense qu'il n'y a pas que moi. Je vois, par exemple, ma collègue avec qui je travaille... Actuellement, après, c'est une perle. Hein. Je pense que j'en trouverai pas une autre aussi extraordinaire. Mais elle a cet amour de l'élève qui est chevillé au corps. Et je pense, en fait, de ta question, je pense que ma seule force, avec humilité, c'est que je ne suis absolument jamais dans le jugement. Ah. Et ça, c'est un truc que j'ai pu apprendre de ma grand-mère, qui avait cet art de faire parler les gens. En n'ayant pas de jugement. Donc, les gens, ils vous racontent les choses. Ils savent que ça, ils ne seront pas jugés ni autres. Donc, la parole, elle est libre. Et du coup, on est amené à ce que des choses soient confiées et qu'on soit dépositaire de ces choses-là et qu'il y ait cette reconnaissance après qui est faite. C'est rare, les gens qui écoutent à notre époque. Après, je n'ai pas vécu avant, mais je pense que de tout temps, on sent, par exemple, chez toi, qu'il y a une écoute. Et c'est pas donné à tout le monde, l'écoute.
Merci pour la justesse de tes mots, sincèrement, Lise. Et sans transition, toi, déjà, à l'époque, tu étais consciente que c'était beaucoup plus dur pour la classe ouvrière, la classe moyenne?
Bah, c'est pas une découverte, ça l'a toujours été.
Ouais, mais tu sais, malheureusement, quand on fait pas partie de ce milieu-là, on peut avoir des discours aussi qui sont un petit peu durs par moment.
Tu parles des enseignants ou des adultes?
Des adultes, effectivement.
Bah, ceux qui sont comme ça, ils souffrent. Faut qu'ils changent. Mm-hmm. J'en connais, il y en a, hein. Qui projettent sur des élèves leur propre éducation ou leur propre façon de penser. Mais ça peut pas fonctionner. Ça peut pas. Ou alors tu t'en prends pour 40 ans de souffrance intense. Et tu... Ceux qui... Enfin, je vois des CPE où ils s'en fichent, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et l'élève, il doit faire comme ci, il doit faire comme ça. Après, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des règles. Hein. Oui. La règle, heureusement qu'elle existe. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'école, elle tient la route, parce qu'il y a des règles fermes et que ça aide à structurer des enfants. Mais la projection de la manière dont certains doivent réagir ou être élevés, tu peux que souffrir quand t'es là-dedans. Enfin, je pense.
Et tu sais, le métier de CPE est clairement aussi prenant, très prenant. Est-ce que toi, tu te verrais par la suite faire autre chose?
Non, je finirai en déambulateur, à cours de récréation, à crier « Allez-vous ranger, c'est l'heure, arrête de jouer au baby, c'est fini, il y a eu la deuxième sonnerie. » Non, ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Je ne veux pas être coupée de la source.
Bien, 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 bien. Et je suis obligée de comparer les deux villes, hein, forcément, ouais, Toulon, ouais. Les deux régions, etc. En termes de subventions à Toulon, ils sont privilégiés par rapport au 93?
Alors, je dirais qu'il y a les mêmes subventions, mais qu'il n'y a pas forcément la même possibilité d'ouverture qui existait sur le 93. Enfin, moi, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait ailleurs. On a fait 10 mois d'école et d'opéra avec l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. On a bossé avec la Cité de la musique, des choses qui m'ont, enfin, qui ont ouvert les enfants, enfin, leur esprit, et qui, moi aussi, je, devenant de fin fond de ma Lorraine, je, j'aurais jamais visité l'opéra, ni vu d'opéra, ni, et ça, ça n'existe pas forcément ailleurs, cette ouverture culturelle qui existe sur la banlieue parisienne. Mmh.
Mmh. Et à Toulon, du tout. Ils sont laissés pour compte, les enfants, presque? Parce que tu sais, quand tu parles avec des gens issus de province, ils te disent tout le temps que « Ouais, mais à Paris, vous êtes chanceux, vous avez tout. »
Je crois, moi, j'ai la chance, hein, j'en reviens à ça, à toujours savoir bien m'entourer. Donc, de gens qui sont dynamiques. Je pense à Madame Sanchez, qui est professeure de français, et qui, là, on est depuis 2 ans sur une classe théâtre. Et elle a réussi à obtenir des tonnes de subventions. On a fait un magnifique spectacle à au théâtre de Toulon, qui nous prête, enfin qui nous prête la salle. Enfin, j'ai toujours le bon sens de compter sur les bonnes personnes. Donc de faire des choses parce que d'autres personnes les impulsent. D'accord. C'est pas forcément moi qui suis à l'initiative. J'aime pas ça. Mais par contre, suivre un mouvement et suivre un projet culturel ou autre, oui, ça m'intéresse. Et si on cherche bien à Toulon, alors c'est pas l'Opéra Garnier, mais après c'est super aussi. Hein. Mmh.
Les projets futurs. Alors tu disais que voilà, t'étais bien en tant que CPE, mais je suppose que il y a quand même des projets enfouis.
Non, je veux. Je veux continuer à faire ce que je fais. Enfin, moi, c'est la chose que je répète tout le temps. Pour moi, c'est pas un travail. Je vois pas ma journée passer. Je ne m'ennuie jamais. On a besoin de moi. J'ai besoin des autres. Le reste, non, ça m'intéresserait pas de passer un concours de chef d'établissement. C'est beaucoup trop de contraintes. Enfin, moi, je pense qu'on, c'est des gens qu'on fait souffrir, les chefs d'établissement, qui ont des pressions de partout. Alors que nous, on a une latitude qui est quand même plus large, on est plus libre.
Je comprends totalement. Et ce serait quoi le message que tu pourrais distiller à la jeunesse, le conseil?
Il faut qu'ils croient en eux et qu'ils aient envie de s'en sortir, parce qu'on peut toujours s'en sortir. Et que c'est par soi-même. Enfin, après, c'est ce que je leur dis aussi beaucoup aux élèves, ceux qui font appel à nous. Savoir toujours s'appuyer, comme dans une rivière, sur les bons rochers pour avancer. Et ceux qui comprennent ça, c'est eux qui font leur petit bout de chemin. Et les rochers, c'est les personnes. Et dans ta vie, tu rencontres toujours des personnes qui vont t'enfoncer. Mais ça, c'est la vie. Hein. Et puis des personnes qui vont te tendre la main et t'aider et croire en soi. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de déterminisme. Il y a un déterminisme, ça, c'est sûr. Mais que... il faut trouver en soi l'envie de s'en sortir, et que l'école, c'est pas force. C'est un ascenseur social, mais c'est pas le seul. On peut faire des belles choses, même si on n'a pas fait des longues études, du moment qu'on y croit.
Eh bien, c'est exactement ça, Lise. En tout cas, Lise, au nom de toute l'équipe de WeSL, nous te remercions chaleureusement pour ta venue, pour cette transparence.
J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Non, tu as été parfaite, honnêtement. Et puis, honnêtement, tu te rends pas compte, mais tu sauves des vies.
Non.
Honnêtement, si, bien sûr. Travailler comme ça avec la jeunesse, leur donner les meilleures armes, honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement, Lisa.
C'est eux.
Mille merci, en tout cas, Lisa.
C'est moi qui te remercie,
Aladjo. T'es le tiers qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec la grande Lise Viéville pour WeSL. Mes paroles, Valtier. Peace.
We hustle, baby.